Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
Un des spécialistes de la loi s'approcha de Jésus. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. »
Nous venons d'écouter la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 à 31. Et nous allons à présent nous pencher sur la question « Comment aimer notre prochain ?» Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons répondu à la question « Qui est mon prochain ?» Nous avons été amenés à faire la conclusion suivante, à savoir que nous devons considérer tout homme, toute femme que nous côtoyons comme notre prochain, sans faire de distinction de race ou de religion. Mais comment pouvons-nous aimer notre prochain? Ma première réponse est, tout simplement, en obéissant à la loi.
Il s'agit là d'une réponse surprenante.
Et c'est une réponse tout à fait biblique. Écoutons à ce propos ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Rome. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère »,« Tu ne commettras pas de meurtre »,« Tu ne voleras pas », »,« Tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « Aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi.
Ah oui, je comprends. Aimer son prochain, c'est refuser de lui faire du mal. C'est respecter ses biens, ses droits, ce que cette personne représente.
Tout à fait. Dieu nous a confié la loi afin de nous montrer, entre autres, la manière dont nous devons nous comporter en société dans le but de protéger les intérêts de tous et de chacun. Toutefois, selon la Bible, le respect de la loi constitue le minimum requis afin de manifester de l'amour envers notre prochain. En effet, si la loi nous interdit de commettre certaines actions méchantes envers notre prochain, le véritable amour nous incite, lui, à promouvoir le bien envers notre prochain afin de l'aider. À ce propos, nous écoutons à nouveau la lecture de la parabole que nous avons considérée la dernière fois.
Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, Lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus.
Dans cette parabole, nous découvrons deux hommes ne manifestant guère d'amour envers leur prochain, tandis qu'un troisième nous donne le bon exemple à suivre.
Parlez-nous d'abord de ces deux hommes qui ne firent aucun cas de leur prochain.
Oui, mais je voudrais aussi parler des brigands. Ils firent beaucoup de mal à cet homme qui cheminait tranquillement sa route. Ils le volèrent et l'agressèrent violemment sans même se soucier de savoir s'il était encore en vie. Ces hommes désobéirent à la loi en le volant, en le maltraitant et en mettant sa vie en danger. Ensuite nous est dépeinte l'attitude de ces deux hommes qui passent et qui remarquent l'homme gisant sur le bas-côté de la route, mais qui n'entreprennent rien, qui n'agissent pas pour lui porter secours. Quelle indifférence ! Alors examinons-nous nous-mêmes. Connaissons-nous des personnes que nous pourrions aider, mais pour lesquelles nous ne faisons rien à cause de notre indifférence ou de notre égoïsme ?
Il est vrai que cette parabole donne à réfléchir.
Prenons maintenant l'exemple du Samaritain qui, lui, a secouru l'homme blessé. De façon très efficace, il est venu à son aide, il a répondu à ses besoins. Il a soigné ses plaies, l'a accompagné vers un lieu sûr, a pourvu à ses besoins financiers. Sans cette intervention, la mort aurait pu frapper cet homme. Ce Samaritain lui a sauvé la vie. Il a accompli tout ce qui était en son pouvoir pour venir à son secours. Il a agi envers lui avec compassion et générosité.
Mais comment appliquer les leçons données à travers cette parabole ? Car ce n'est quand même pas tous les jours que nous rencontrons un homme blessé sur le bord de la route.
Nous pouvons rencontrer des personnes ayant des besoins très divers. Certains de ces besoins sont urgents, d'autres moins. Toutefois, cette parabole nous invite à nous poser la question que voici : que puis-je faire pour aider la personne qui en a besoin ?
Mais je remarque qu'il est impossible de répondre à tous les besoins, tant ils peuvent être nombreux.
J'en suis conscient, et je voudrais être réaliste. C'est pourquoi il nous faut nous poser cette question : que puis-je faire pour la personne que je côtoie, qui a besoin de secours, d'aide et de consolation ? Il peut arriver en effet que parfois nous regrettions à juste titre de ne pouvoir rien faire dans tel ou tel cas, faute d'avoir les compétences ou les moyens nécessaires pour apporter l'aide souhaitée. Et il est vrai que l'Éternel ne nous demande pas de porter les fardeaux de tous sur nos épaules. Toutefois, il peut être parfois trop facile de trouver des excuses pour ne rien faire du tout, et il ne faudrait pas tomber dans ce piège. Oui, il faut être réaliste, mais sans pour autant fermer notre cœur aux besoins de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi cette parabole nous incite à aimer notre prochain. Elle nous invite à cultiver de la compassion pour lui au lieu de nous apitoyer sur nous-mêmes. Elle nous convie à pratiquer la générosité et le partage, même si nous n'avons pas grand-chose.
Merci Jean-Marc pour votre participation aujourd'hui. Elle nous aide à comprendre ce que l'Éternel attend de nous lorsque la Bible déclare « Aimez votre prochain ».
Parce que nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent méditer sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament, donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du psaume 23, versets 5 à 6. Ensuite, Alain nous fera part de quelques réflexions sur ce texte.
Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel. Tant que je vivrai.
Comment vous sentiriez-vous si un personnage illustre vous invitait à partager un repas avec lui ? Dans beaucoup de cultures à travers le monde, L'hospitalité tient une place importante dans la société, car elle est essentielle pour entretenir de bonnes relations personnelles. Il en est de même dans la Bible. Le fait de s'attabler avec quelqu'un ou de refuser de le faire représente beaucoup. C'est pour cela que l'auteur du psaume prend l'image d'un repas pour décrire la nature de l'amour de Dieu envers ceux qui se confient en lui. Selon cette image biblique, une invitation à partager un repas est la preuve que la personne invitée a de la valeur pour son hôte, que ce dernier désire lui offrir son amitié et passer de bons moments avec elle. Si donc ce psaume parle de l'Éternel comme de celui qui dresse une table, il affirme en fait que l'Éternel réserve le meilleur accueil à celui ou celle qui se confie en lui. Quel privilège et quel amour! De plus, ce repas est une image de l'amitié que l'Éternel nous offre, une preuve qu'il désire entretenir une relation personnelle avec nous. De surcroît, selon le psaume, il est question d'un repas abondant, la coupe déborde, et l'hôte oint la tête de ses invités avec un parfum. Quel luxe! Nous découvrons ici l'image d'un Dieu généreux qui désire nous donner le meilleur. Et le meilleur, justement, est de le connaître. Lui, le Créateur de l'univers, le Rédempteur du croyant. Cependant, selon le psaume, cette table bien fournie est dressée en présence de nos ennemis. Quelle est donc l'importance de cette précision? Tout simplement parce que, lorsqu'une personne importante nous prend sous son aile, nos ennemis craignent alors de porter la main sur nous. Ils craignent les représailles de celui qui est bien plus puissant qu'eux. En nous réservant un bon accueil à sa table, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu plus fort que tous les éléments et tous les hommes, nous prend sous son aile afin de nous protéger. Et par là même, il dit à nos ennemis, « Celui-là est à moi, celle-là m'appartient, vous ne pouvez plus rien lui faire. » Toutefois, il faut se poser la question, à quels ennemis l'Éternel déclare-t-il ces choses ? Selon le Nouveau Testament, nos plus grands ennemis sont spirituels. Nous pouvons les nommer le péché, le diable et la mort. Si nous avons cherché refuge à la table de l'Éternel, ces ennemis ne peuvent plus nous anéantir. Le péché, le diable et la mort cherchent ensemble à nous condamner pour que nous souffrions éternellement en enfer. Mais Dieu nous assure la résurrection et la vie éternelle si nous nous attablons avec lui. L'Éternel est le plus fort. C'est lui qui aura le dernier mot sur le péché. Il aura le dernier mot sur la mort et le diable. Et nous avons l'assurance d'être l'objet de son amour tous les jours et pour l'éternité.
Merci Alain. Connaître Dieu est effectivement un privilège. Il nous procure une joie immense. Combien il est aussi rassurant de se savoir aimé par celui qui est plus fort que tous nos ennemis.
Nous poursuivrons nos deux séries sur l'amour lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Nous aborderons la question « Comment aimer notre femme ou notre mari ?» En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.